La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. L'émotion qui nous réunit aujourd'hui naît dans la solitude d'une salle gris-perle au premier étage de la Fondation Van Gogh à Arles. Là, dans un cadre de bois doré, repose un tableau solitaire. C'est peu dire que cet isolement convient à l'œuvre. Devant nous, le soleil immense, à la fin de son cycle diurne, pose exactement son cercle sur la Terre. Le ciel est devenu vert clair, comme cela arrive parfois quand le jaune et le bleu pâle se mêlent, non pas dans la matière de la peinture, mais dans le ciel lui-même, ce grand peintre lui aussi. Dans la paix obstinée du soir, alors que les derniers cris d'oiseaux se taisent peu à peu, le semeur de Van Gogh, inlassable, répète son geste. Sa main droite laisse tomber une pluie de graines bleues qui tombe sur un sol labouré par les traits de pinceau. Dans le contre-jour, le visage disparaît. Le corps et la tête ne sont plus qu'une masse noire, rythmée par les plis des étoffes malmenées par le travail, comme les figures sculptées du portail de Sainte-Trophime. Un arbre brun, tourmenté, souvent taillé, traverse en diagonale le paysage. À droite, dans le ciel, des nuages carmins et rosés s'effilochent en attrapant les dernières lueurs du jour. Au loin, la lisière d'un bosquet ombreux découpe son architecture déjà noircie par la nuit qui vient. Pour parler du semeur au soleil couchant de Vincent Van Gogh, exposé à Arles en ce moment, qui est revenu donc pour la première fois depuis 131 ans à Arles, j'ai la joie de recevoir le grand historien et directeur de la Fondation Burlet, Lucas Glore. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Merci.
Merci infiniment de venir nous parler de ce tableau qui, je dois dire, quand on le voit dans la solitude de cette chambre, quasiment une chapelle en l'occurrence, puisqu'il y a une sorte de cérémonie qui a lieu dans le tableau lui-même, si je puis dire, il y a une émotion très forte.
Il est vrai que moi aussi, j'ai vécu pour la toute première fois ce fait d'avoir isolé le tableau de Van Gogh, qui compte parmi les tableaux les plus importants de notre collection, mais que normalement nous exposons dans l'ensemble des autres tableaux de Van Gogh qui font partie de la collection. Mais ici, il est vrai que cet isolement renforce certainement l'effet très fort qu'exerce ce tableau.
Alors, une des raisons pour lesquelles je souhaite que l'on parle de ce tableau, c'est que ce tableau correspond, me semble-t-il, à une obsession de l'artiste. Le thème du semeur était une de ses obsessions.
Il est vrai que c'est un thème qu'a occupé Vincent Van Gogh pendant toute sa vie. Toute sa vie d'artiste, pour ainsi dire, parce qu'il est devenu artiste assez tard dans sa vie, à 26 ans. Et parmi les tout premiers travaux qu'il accomplit en devenant artiste, il fait une copie. Il fait une copie d'après, non pas un tableau, mais une gravure. Donc il commence lentement, en blanc et noir, et copie une gravure d'après une des plus fameuses tableaux de l'époque, un tableau vedette, pour ainsi dire, dans toute la peinture de la deuxième moitié du XIXe siècle, le semeur de Jean-François Millet.
C'est un tableau de 1850, hein, je crois.
Justement,
qu'il a regardé très particulièrement.
Et c'est un tableau, comme je disais, archi-connu à l'époque.
Ah, oui.
Donc, pour lui, c'était vraiment une approche, un tableau qui représentait tout d'abord pour le public du temps, aussi la toute première fois que le monde de l'agriculture franchissait les seuils du salon, pour ainsi dire. Ouais. Donc le tableau ensuite fut acheté par des collectionneurs américains. Aujourd'hui, le tableau se trouve à Boston et ça aussi reflète bien sûr l'attraction internationale qu'a eu ce tableau. Et ce n'est pas par hasard que Vincent Van Gogh, maintenant, se met à s'identifier avec ce sujet en copiant la gravure, une gravure de reproduction qui a été produite du tableau. Et le dessin est conservé, il se trouve aujourd'hui au musée Van Gogh à Amsterdam.
Alors peut-être que puisqu'on a la chance d'avoir Gabriel Dufay, une voix connue sur France Culture avec nous, j'aimerais, Gabriel, que vous nous lisiez là une lettre de Van Gogh de 1880, justement.
QM, le 20 août 1880. Cher Théo, si je ne me trompe pas, tu dois encore avoir les travaux des champs de Millet. Voudrais-tu avoir la bonté de me les prêter pour un peu de temps et de me les envoyer par la poste? Tu dois savoir que je suis en train de griffonner de grands dessins d'après Millet et que j'ai fait les heures de la journée ainsi que le summer. Eh bien, peut-être si tu les voyais, n'en serais-tu pas trop mécontent? Maintenant, si tu voudrais m'envoyer les travaux des champs, peut-être pourrais-tu y ajouter encore d'autres feuilles par ou d'après Millet, Breton, Feuillin-Perrin, etc. N'en achète pas exprès, mais prête-moi ce que tu peux avoir.
C'est une très belle lettre, parce que déjà on sent l'obsession. D'abord, il y a l'obsession de devenir l'artiste ambitieux que Théo va espérer lui aussi. Hein, on sent qu'il y a une volonté d'être travailleur.
Oui. Oui. Et c'est aussi une très belle lettre parce qu'elle montre le dialogue très intime, mais très, très important pour Vincent, qui s'établit avec le frère.
Oui.
Et nous allons voir, à travers le temps, le peu de temps qui reste à Vincent, en effet, comment aussi le développement du sujet du semeur sera toujours rapporté au frère.
Quand vous dites ça, Lucas, vous faites allusion, je le précise pour nos auditeurs, nous sommes en 1880, la carrière n'est pratiquement pas commencée. 10 ans après, Van Gogh va disparaître, et c'est dans ces 10 ans d'une trajectoire obstinée que Van Gogh va réussir cette aventure, et le Summer sera une œuvre faite, celle dont nous allons parler, et plus précisément celle de votre collection, la collection Burlet, est une œuvre qui est faite un an avant sa mort à peu près.
2 ans, oui.
2 ans avant sa mort, il est encore à Arles, il va partir donc à Auvers, et c'est probablement l'aboutissement, ou en tout cas le chef-d'œuvre de tous les semeurs qu'il a essayé de faire.
Ça, il est sûr. On peut vraiment suivre pas à pas le développement du sujet. En effet, après cette première copie, ce dessin qui copie cette gravure, le sujet repose jusqu'au moment où Van Gogh se rend à Arles. C'est en février 1888, c'est le moment où il se distance de Paris, où il a jusque-là fait une partie importante de sa carrière, aidé par son frère, qui ne l'aide pas seulement par des soutiens financiers qu'il lui donne, mais qui l'introduit aussi dans les cercles, dans les milieux artistiques parisiens qu'il faut fréquenter.
Bien sûr.
Qui l'introduit aux impressionnistes et qui est donc vraiment au début de ce moment où Van Gogh, en venant de sa Hollande natale, devient un artiste sur un plan international, représenté par la scène artistique de Paris.
Oui, parce qu'on a l'impression que Van Gogh, la mythologie fait de Van Gogh un artiste maudit, isolé, etc. C'est pas vrai. Il est en relation avec la scène internationale.
Il est en relation avec la scène internationale et il jouit de la reconnaissance de ses pairs. Ça, c'est essentiel de voir. Ça, c'est essentiel vraiment de mentionner. S'il n'est pas vraiment l'artiste favori des collectionneurs, Et il est vrai qu'il ne vend presque rien de son vivant. Il est toujours reconnu par ses collègues peintres artistes.
Et pas n'importe qui, Émile Bernard, Gauguin et les autres. Et donc, ce qu'on va découvrir, évidemment, dans ses lettres, c'est que non seulement il est reconnu par les autres, mais il les connaît très bien. C'est-à-dire qu'il a un point de vue très, très construit sur toute la scène la plus contemporaine.
Absolument. Et il se lance tout d'abord à devenir un peintre néo-impressionniste. Donc, il adopte cette méthode toute neuve qui est présentée lors de la toute dernière exposition du groupe impressionniste en 1886, le moment où il arrive à Paris. Et il s'instruit lui-même de devenir un artiste néo-impressionniste. Il utilise un modèle bon marché, c'est-à-dire il fait des autoportraits, toute une série d'autoportraits, pour justement apprendre comment peindre une peinture néo-impressionniste. Et c'est sur ce style, sur cette technique qu'il revient au moment où il reprend le sujet du sommeur, au moment même où il arrive à Arles, quelques mois après qu'il s'y est installé, mi-juin 1888, il attaque de nouveau le sujet du semeur.
Alors, il va attaquer en début juin, donc 88. Il est arrivé en février, hein, donc il est arrivé, il y avait 60 cm de neige, il le raconte dans une de ses lettres. Il trouve qu'il y a des rochers jaunes très beaux, que le musée est absolument sinistre, même pas digne d'être à Tarascon, ce qu'il raconte. Et le voilà reparti sur ce sujet du semeur. Et le 19 juin 88, il écrit à Émile Bernard, le grand artiste proche de Gauguin, cloisonniste, et c'est important parce qu'au fond, il cherche à attirer aussi bien Émile Bernard que Gauguin à Arles. Je crois que le but, dites-moi, Lucas, si vous êtes d'accord, le but de Van Gogh, c'est de faire un phalanstère, n'est-ce pas ?
Absolument. C'est un projet d'établir un atelier du midi, donc un endroit où les artistes avancés pourraient collaborer ensemble et trouver des nouvelles formules pour s'exprimer.
Gabriel Dufay, voulez-vous bien nous lire cette lettre du 19 juin 88 ?
Mon cher Bernard, voici croquis d'un semeur. Grand terrain de mottes de terre labourées, franchement violet en grande partie. Champ de blé mûr d'un ton d'ocre jaune avec un peu de carmin. Le ciel jaune de chrome 1, presque aussi clair que le soleil lui-même, qui est jaune de chrome 1, avec un peu de blanc, tandis que le reste du ciel est jaune de chrome 1 et 2 mélangés, très jaune donc. La blouse du semeur est bleue et son pantalon blanc. Toile de 25, carré. Il y a bien des rappels de jaune dans le terrain, des tons neutres, résultante du mélange du violet avec le jaune, mais je me suis un peu foutu de la vérité de la couleur. Faire des images naïves d'almanach plutôt, de vieilles almanachs de campagne où la grêle, la neige, la pluie, le beau temps sont représentés d'une façon tout à fait primitive, ainsi qu'Anquetin avait si bien trouvé sa moisson. Je ne te cache pas que je ne déteste pas la campagne, y ayant été élevé, débouffé de souvenirs d'autrefois, des aspirations vers cet infini dont le semeur, la gerbe, sont les symboles, manchant encore comme autrefois. Mais quand donc ferai-je le ciel étoilé, ce tableau qui toujours me préoccupe ? Hélas, hélas, c'est bien comme dit l'excellent copain Cyprien dans « Emménage de Huysmans ». Les plus beaux tableaux sont ceux que l'on rêve en fumant des pipes dans son lit, mais qu'on ne fait pas. S'agit pourtant de les attaquer. Quelque incompétent qu'on se sente vis-à-vis des ineffables perfections de splendeur glorieuse de la nature.
«
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous venons d'entendre une très belle lettre de Van Gogh à l'artiste Émile Bernard dans lequel il décrit le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire son intention de réaliser un semeur. Et cher directeur, vous êtes en ce moment en train de nous parler de ce semeur exposé à Arles, mais ce n'est pas celui-là exactement qu'il décrit à Émile Bernard. C'est un semeur précédent, non ?
C'est un semeur précédent. Et c'est très important de constater qu'en même temps, quand il décrit cette première version, cette toile qu'il a réalisée mi-juin à Émile Bernard, il fait aussi à son frère une déclaration d'intention. Parce que maintenant, il écrit à Théo, ce qu'il faut faire maintenant, c'est le semeur en couleur et en grand format, en développant ce qu'a fait auparavant Jean-François Millet. Donc le grand modèle duquel il est parti il y a quelques années.
Selon vous, le semeur dont nous parlons, celui qui est exposé à Arles en ce moment, c'est un tableau qui est grand puisqu'il fait un mètre de large, un petit peu moins, et 75 cm de haut. Quand on est devant lui, on est face à une vraie présence avec un drame cosmique en train de se réaliser. Selon vous, dans l'amour qu'a Van Gogh pour Millet à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y trouve, lui ? C'est pas seulement le tableau d'un artiste connu qui a fait le semeur comme Warhol a fait la Marilyn, c'est autre chose.
Je crois qu'en effet, ce qui attire Vincent vers l'art de Millet, c'est cette proclamation de la vie du paysan comme étant une vie près de la nature, une vie réelle, une vie non pas détournée par les forces de l'industrialisation qui entoure Vincent, même à Arles. Il y a une version des semeurs qui peint à Arles. On voit même à l'arrière-fond, vers l'horizon, les usines d'Arles avec les cheminées qui émettent de la fumée. Donc, il y a cette présence de l'industrie qui s'approche. Et je crois que l'identification de Vincent avec l'art de Millet, c'est aussi une idéalisation de ce que Millet lui propose, le fait que là, on a pour la toute première fois le paysan entrant comme figure digne dans le domaine des beaux-arts.
Alors, je me demande si on ne pourrait pas essayer de pousser cela vers une idée plus politique. Est-ce qu'il n'y a pas chez Van Gogh une admiration pour la vie simple comme parti politique, d'une certaine façon ? Un petit peu comme dans la littérature américaine, vous avez presque en même temps un goût de la relation à la nature, à la vie simple. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je crois.
J'admets que j'aurais de la peine
à me suivre,
à vous énoncer un profil politique de Vincent Van Gogh. Je ne pense pas qu'il s'est très souvent exprimé de façon claire et nette sur ce sujet. Je pourrais beaucoup plus facilement vous suivre si vous parliez de Paul Gauguin, son ami qui, sous très peu, va le rejoindre à Arles. Gauguin, lui, je crois, était vraiment un artiste qui n'a pas seulement joint un groupe des indépendants, mais qui se proclamait aussi politiquement indépendant, donc plutôt de gauche que du côté conservateur.
Alors peut-être que le mot politique n'était pas juste et que est-ce que vous me suivriez mieux si je disais philosophique, c'est-à-dire la vie frugale et la vie simple comme modèle d'une vie exemplaire au sens presque christique.
Absolument. Là, je crois qu'on s'approche vraiment...
J'avais peur qu'on soit brouillé pour longtemps.
Non, non. Et je crois qu'en effet, et on peut, je crois, aller un petit pas plus loin que dire philosophique. Pourquoi pas dire théologique ? Il ne faut pas oublier que Vincent Van Gogh, à un certain moment dans sa carrière, s'est lancé dans la théologie. Il a voulu devenir prédicateur, donc il a voulu suivre les pas, par ailleurs, de son père, qui était pasteur en Hollande.
Mais je regardais il y a quelques jours sur le site de la Fondation Van Gogh d'Amsterdam, celle-là, les lettres, et je regardais sur Millet, il y a une soixantaine d'occurrences, et sur le Christ, il y a une centaine d'occurrences. Il en parle tout le temps.
Oui.
Et pour vous suivre, j'aimerais bien que, Gabriel, vous pouvez nous lire une lettre à Émile Bernard sur cette question, justement.
Arles, mardi 26 juin 1888. Mon cher Bernard, le Christ a vécu sereinement en artiste plus grand que tous les artistes, dédaignant et le marbre et l'argile et la couleur, travaillant en chair vivante. C'est-à-dire, cet artiste inouï et à peine concevable avec l'instrument obtus de nos cerveaux modernes, nerveux et abrutis, ne faisait pas de statues, ni des tableaux, ni même des livres. Il l'affirme hautement, il faisait des hommes vivants, des immortels. C'est grave, ça. Surtout parce que c'est la vérité. Ce grand artiste n'a pas non plus fait des livres. La littérature chrétienne, certes, dans son ensemble, l'indignerait, et bien rares sont dans celle-là les produits littéraires qui, à côté de l'Évangile de Luc, des Épîtres de Paul, si simples dans leur forme dure ou guerrière, puissent trouver grâce. Ce grand artiste, le Christ, s'il dédaignait écrire des livres sur des idées et des sensations, a certes bien moins dédaigné la parole parlée, la parabole surtout. Quel semeur, quelle moisson, quel figuier.
Puisque nous parlons du semeur de Van Gogh dans notre émission « L'art et la matière », avec Lucas Glore aujourd'hui, le directeur de la Fondation Burlet, qui a prêté la Fondation Van Gogh d'Arles, donc ce sublime chef-d'œuvre de Van Gogh. On aborde là une lecture symbolique de l'œuvre, et je serais curieux que vous me disiez comment vous lisez le sens profond de ce thème et de ce tableau-là chez Van Gogh.
Je suis sûr qu'on ne se trompe pas si l'on parle d'un tableau religieux dans le cadre du semeur. Et c'est certainement aussi ce qui fait une grande partie de son attraction. C'est un cadre, un sujet religieux sans vraiment faire recours à un sujet bien défini. Ce n'est pas un sujet biblique, pour ainsi dire, enfin, dans le sens strict du mot. Et puis, je pense que ça reflète aussi le fait que, pour Van Gogh, ce semeur devient une espèce d'identité pour lui-même. Il s'identifie avec le sujet. Je crois que ce n'est pas par hasard qu'il choisit le semeur comme sujet quand il se met en concurrence avec son ami Paul Gauguin, qu'il a invité à lui suivre de la Bretagne à Arles. Gauguin hésite longtemps. C'est sans l'intervention du frère de Vincent, Théo, Gauguin n'aurait jamais quitté la Bretagne, n'aurait jamais rejoint Vincent. Mais Théo y insistait tellement, il lui envoyait même, je dirais presque le billet de train, enfin, oui, des moyens pour le voyage, que finalement, Gauguin arrivait à Arles. Il est vrai que c'était Vincent qui a pris cette initiative, mais ça ne veut pas dire que c'était pas seulement un ami proche qui l'invitait, c'est évidemment aussi un concurrent. C'était un autre peintre dont Vincent sentait la force, sentait en effet que, évidemment, Gauguin a connu déjà plus de succès. Par ailleurs, il est intéressant que Gauguin arrive au moment où Théo, le frère de Vincent, lui a vendu deux toiles à Paris à des collectionneurs. Donc il arrive à Arles avec déjà un certain succès, tout à fait contrairement à Vincent.
Il a un prestige au milieu de tous les autres artistes, et puis une personnalité tellement intense, Gauguin,
oui,
lui-même.
Oui,
hein.
Oui.
Mais avant d'aller là-dessus, je voudrais, parce qu'on aborde deux sujets à la fois, et il y en a mille, hein, donc c'est parfait, on n'a qu'au début de l'aventure. Juste pour manifester dans la description du tableau ce qu'il y a de religieux, et aussi ce qu'il y a de Gauguin. Il y a de religieux, probablement, le soleil qui entoure comme un nimbe la tête du laboureur, du semeur plutôt.
Oui, alors ça c'est presque allégorique si vous voulez. Ça c'est tellement clair et net que évidemment...
On est quasiment dans les mosaïques de Ravenne, voilà, dans la grande tradition byzantine.
Rend un saint, voilà, le semeur.
Le semeur est un saint. Ouais. La deuxième chose, qui a des sources différentes, c'est l'arbre. L'arbre, est-ce que ce n'est pas une allusion à un arbre assez semblable qu'on a chez Gauguin en plein travers d'un tableau de la vision après le sermon, par exemple ?
Je ne suis pas sûr, à vous dire la vérité, si Van Gogh a eu la chance de voir la vision après le sermon. Je crois qu'en effet, ce qui le fait mettre cet arbre vis-à-vis du semeur, c'est une autre démarche. C'est l'essai de combiner paysage et figure dans une et même toile. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle la version de la collection Burlet se distingue de toutes les autres versions qu'il ait fait. Normalement, nous voyons une petite figure dans un paysage. Ici, la figure entre en dialogue avec la nature à travers cet arbre qui, dans le tableau, lui est opposé et qui donc transpose cette rencontre du semeur avec la nature dans un niveau tout à fait différent.
Alors, cet arbre donc divise le parti en deux. Il y a une partie liturgique qui est la partie, le drame solaire, si je puis dire, donc le grand cycle cosmique. La partie naturelle avec les bosquets au loin, la terre labourée et avec un irréalisme coloré dont vous parlerez certainement parce que c'est aussi extraordinaire. On a l'impression que ce sont des champs de lavande, mais on n'est pas du tout à la période de la lavande. On est dans des labours.
C'est vrai que c'est aussi, bien sûr, un tableau qui ne représente point une étude d'après nature. Ce n'est pas une peinture faite au plein air, suivant la vieille recette des impressionnistes. C'est un tableau qui, bien sûr, combine de différents éléments. C'est presque, on dirait, du sampling, si vous voulez. Pour renforcer l'effet de l'ensemble. Vous avez tout d'abord fait une très belle description du tableau en faisant allusion au ciel qui, en effet, peuvent être mêlés par le jaune et le bleu pour devenir jaune. Donc, je ne dirais pas que c'est un tableau purement fantaisiste. Mais c'est un tableau qui, très délibérément et très consciemment, utilise les différentes possibilités du peintre, la couleur avant tout, pour traduire une émotion à ceux qui le regardent.
Je voudrais revenir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure, et qui, en y pensant, m'interroge. Vous dites tout à l'heure, après tout, Van Gogh s'identifie au semeur. Et pourtant, ce que je pense juste, mais pourtant, je me suis demandé s'il ne s'identifiait pas plus à l'arbre. Parce que la signature est dans l'arbre, comme un amoureux graverait quelque chose dans un arbre. Et il me semble, si je ne me trompe, est-ce que je me trompe ?
Mais la signature est en bas à droite. Donc c'est la position la plus normale pour une signature. Donc je hésite toujours d'interpréter trop les détails qui, évidemment, se prêtent pour, justement, une interprétation symbolique. Mais je pense qu'en effet, le semeur, pour Van Gogh, représente aussi un peu le genre de travail que lui-même est en train de faire. C'est-à-dire, il sème sans vraiment savoir s'il vit pour voir fleurir ce qu'il a semé. Et c'est là que, je crois, l'identification avec le semeur se prête. L'identification avec l'arbre, eh bien, je crois que pour lui, c'est plutôt un instrument de travail, j'ose dire, dans le sens qu'il utilise cette forme,
oui,
de façon très brutale presque, pour structurer son tableau. Et pour, justement, faire de ce tableau, un peu une démonstration de ce que peut être l'art, contrairement, différemment de ce que fait, en même temps, son ami Paul Gauguin.
Alors, vous avez raison, évidemment, il y a une audace formelle extraordinaire dans la façon de représenter cet arbre qu'on a du mal à identifier. Dans certaines lettres, il dit que c'est un if. On aurait plutôt tendance à y reconnaître un saule, mais bon, peu importe, c'est un arbre. Et on retrouve cette façon de faire des arbres en diagonale chez quelqu'un qui connaissait très bien. C'était le fameux collectionneur Bing, qui avait des œuvres de Hiroshige en particulier, et dans lesquelles on retrouve ces arbres traversant complètement l'image.
C'est clair que là, nous avons une des influences plus évidentes de cet art japonais qu'occupait Vincent pendant toute sa carrière d'artiste. Il rassemblait une collection très importante de gravures en bois japonaises. Donc, il s'y occupait constamment. Et je crois que, pour revenir à cette idée de l'arbre comme outil de travail, que cet arbre sert à rendre monumental ce tableau, en évitant toutes sortes d'illusions, de perspectives, et en rendant plate la surface du tableau. Et c'est là que je crois que, aussi dans l'histoire du développement de la peinture post-impressionniste, repose un peu l'importance de ce tableau. C'est un tableau qui se prêterait à être agrandi.
Ben oui.
10 fois, 100 fois.
C'est un monument. C'est un monument.
Absolument.
Ouais. Je vous propose d'écouter peut-être un philosophe que vous avez invité avec la directrice de la fondation, Bitche Kuriger, à commenter le tableau. Je pense à Emanuele Coccia, qui est un des très bons jeunes philosophes audacieux.
Le semeur au soleil couchant contient une suggestion importante pour comprendre cette perspective. Les deux sujets au premier plan, l'homme et l'arbre, sont en parfait équilibre, comme s'il s'agissait des deux termes d'une équation. On a pu le remarquer dans la lettre de la fin d'octobre 1888, où le hasard fait se juxtaposer deux ébauches, celle du semeur et celle de l'arbre. Le tableau de la collection Burlet trouve ainsi une nouvelle solution iconographique en parvenant à marier les deux sujets provenant de deux traditions picturales différentes. Ce mariage iconographique a des implications théoriques majeures. Il suggère de fait une équivalence fonctionnelle. L'arbre est un semeur, un agriculteur comme l'homme, et l'acte de plantation n'a rien de distinct de l'existence d'un arbre et de sa floraison, ni de l'existence végétale. De la même manière, l'existence de tout arbre est un fait agricole, peu importe qu'un semeur humain ou végétal en soit à l'origine. L'ensemencement, ainsi que la croissance, on l'a vu, est un processus de dénaturalisation extrême de la terre, Sa matière minérale naturelle est amenée à s'imbiber d'énergie extraterrestre, étrangère à sa nature. Il n'y a donc pas plus d'artificialité dans le geste du semeur que dans la plante qui grandit et se reproduit. Tout acte de croissance, toute existence végétale est déjà une forme d'artificialisation de la Terre. C'est sur cette piste que l'art à venir devra s'engager.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et je suis avec Lucas Glore, le directeur de la Fondation Bourlet, pour parler d'un des chefs-d'œuvre de cette collection qui est le Semeur. Le Semeur au soleil couchant, un tableau de 1888 et le plus beau des tableaux de la série, qui en compte, Lucas, beaucoup, non?
C'est six tableaux, en effet.
Il y a pas mal d'esquisses et de dessins.
Et puis, il y en a des esquisses préparatoires, bien sûr. Et,
une quinzaine de dessins, je crois.
Oui.
Donc, ça fait quand même presque une trentaine d'œuvres sur ce thème.
C'est, en effet, une quantité importante qui aussi montre l'importance que le sujet a eue pour Van Gogh. Et ce n'est donc pas par hasard qu'il reprend justement le sujet du semeur au moment où Gauguin, son ami, arrive à Arles et où Van Gogh, maintenant, veut montrer à son ami ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, il lui veut montrer qu'il sait faire un tableau néo-impressionniste comme ils se font à cette heure-là à Paris, tout le temps. Il se met à peindre un semeur dans une journée pour justement montrer « j'ai l'habitude, hein, je suis habile à peindre ».
Celui-là a été fait en une journée ?
Et c'est le semeur qui aujourd'hui se trouve dans la collection Andloser de Winterthur, qui fut faite en effet le 28 octobre 1888. Donc là, on a vraiment une date précise qui définit exactement le moment où ce semeur a été peint. Ensuite, passe à peu près un mois, et c'est aussi un moment où, il faut le dire, des tensions entre les deux amis commencent à se formuler, à se réaliser. Peut-être pas vraiment se formuler, mais plutôt être sous-entendu, mais néanmoins présent. Et c'est encore une fois le semeur auquel fait recours Van Gogh, quand maintenant il se prête vraiment à montrer à son ami Gauguin qu'il n'est pas seulement capable de faire une peinture néo-impressionniste, c'est une chose que beaucoup d'autres peintres à cette époque-là savent faire. Maintenant, il veut lui montrer qui sait faire autre chose que lui, Gauguin. Donc, il se met à formuler, à étudier une nouvelle formule. Il fait un tout petit tableau, 30 sur 40 cm, où il utilise un langage pictural tout à fait neuf. Il synthétise maintenant les formes et les couleurs. Il n'utilise plus l'écriture légère du néo-impressionnisme. Maintenant, c'est la synthèse, c'est les contours qu'il utilise pour montrer à Gauguin, qui en même temps développe un langage pictural toujours plus transparent, toujours plus fluide, qu'il faut bâtir les tableaux, il faut les construire. Et quelques jours après, il se met au grand format. Le tout premier dont il parlait à Émile Bernard en juin 88, c'était une figure 25. Maintenant, il se met à une figure 30. Et ça veut dire maintenant, ça devient important.
Ouais, oui. Évidemment, évidemment. Alors, ben, puisque là, on en est, il y a une lettre d'ailleurs à Théo du 21 novembre 88, où il, on, puisqu'on est en plein dans la date où cela advient, où il décrit l'aventure. Gabriel, est-ce que vous voulez bien nous lire cette lettre ?
Mon cher Théo, voici croquis de ma dernière toile en train. Encore un summer. Immense disque citron comme soleil. Ciel vert jaune à nuages roses. Le terrain violet, le summer et l'arbre bleu de Prusse. Toile de 30. Attendons tranquillement pour exposer jusqu'à ce que j'aie une trentaine de toiles de 30. Alors nous les exposerons une fois dans ton appartement pour les amis, et encore en n'insistant pas, et ne ferons rien d'autre. Il y a bien des raisons pour ne pas bouger maintenant. D'ailleurs, cela ne sera pas long. Je crois qu'à l'époque de l'exposition, ou un peu après, je pourrais t'envoyer cela. En attendant, cela séchera à fond ici, et je pourrai encore reprendre toutes les toiles une fois bien sèches à fond, jusque dans les empattements. Le temps ici est froid, mais on voit néanmoins de bien belles choses. Ainsi, hier soir, un coucher de soleil citron malade, mystérieux, d'extraordinaire beauté. Des cyprès bleus de Prusse, des arbres à feuilles mortes de tous les tons rompus. Là contre, c'était pas piqué des vers.
Voici donc le style magnifique de Van Gogh écrivant à son frère Théo en français. Parce que nos auditeurs ne savent peut-être pas que toutes ces lettres sont écrites en français et dans un style parfait. Oui. On voit le littéraire, n'est-ce pas,
oui,
Lucas?
Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que ces deux Hollandais, à un moment donné, commencent à correspondre en français. Je crois que c'est aussi un signe de voir comment Van Gogh s'identifie avec la scène artistique parisienne. Pour Théo, évidemment, c'est sa langue de tous les jours, c'est la langue dans laquelle il fait ses affaires, qui sont des affaires d'un marchand d'art.
Parce que quand vous parliez tout à l'heure de la stratégie de Van Gogh, en fait, on entend bien dans cette lettre qu'il y a de l'ambition, effectivement, mais il y a aussi une stratégie commerciale. Il va en avoir un groupe important, il va revenir, et votre tableau aurait dû être retouché par lui.
Oui. C'est vrai que ce tableau aurait fait partie de toute une série de tableaux que Vincent comptait exposer. Mais ce qui est quand même essentiel, c'est aussi de mentionner le fait, pour en revenir à la signature que vous mentionniez, que même s'il n'y a pas encore d'exposition concrète où envoyer le tableau, il le signe.
Oui.
Très contrairement à son habitude, il le signe avec son prénom pour ne pas faire la honte à sa famille. C'est vrai que...
C'est ça. Il avait peur du scandale,
oui,
pour la famille.
Il voulait pas... Oui. Donc, il voulait protéger sa famille en n'utilisant pas son nom de famille, mais en se limitant sur son prénom. Et pour une fois, il signe. Il en est tellement content de ce qu'il a fait qu'il ne fait pas seulement une esquisse dans cette lettre qu'il envoie à son frère, mais il fait une petite réplique à l'huile qu'il renvoie à sa mère pour lui montrer, regarde ce que j'ai accompli, finalement une réussite. Car il ne faut pas oublier que Van Gogh était très critique de soi-même. Il a constamment cru ne pas pouvoir suffire, il a constamment été terrorisé par l'échec. Et le fait que le semeur au soleil couchant porte cette signature est quand même une importance dans ce contexte.
Mais c'est vrai qu'il y a ce doute qui l'habite en permanence. Enfin, c'est difficile, c'est laborieux, il est en plein combat. Il y a une lettre de décembre 88 qui est intéressante là-dessus, à son frère Théo. Écoutons-la, Gabriel.
1er décembre 1888. Mon cher Théo, actuellement je suis en pleine merde. Des études. Et cela durera encore. Un désordre tel que j'en suis navré. Et pourtant cela me fera de la propreté à 40 ans. De temps en temps une toile qui fait tableau, tel que le semeur en question, que je crois, moi aussi, mieux que le premier. Si nous pouvons tenir le siège, un jour de victoire viendra pour nous, quand bien même qu'on ne serait pas dans les gens desquels on parle. C'est un peu le cas de songer à ce proverbe « Joie de rue, douleur de maison ». Que veux-tu ? Supposant que nous ayons encore toute une bataille à faire, alors il faut chercher à mûrir tranquillement. Tu m'as toujours dit de faire la qualité, et non tant que ça la quantité. Or, rien ne nous empêche d'avoir beaucoup d'études comptant comme telles, et conséquemment, pas à vendre un tas de choses. Et si nous soyons tôt ou tard obligés de vendre, alors de vendre un peu plus cher des choses qui peuvent, au point de vue de la recherche sérieuse, se maintenir.
Nous sentons bien dans cette lettre, monsieur le directeur de la Fondation Bourlet, que Van Gogh considère ce semeur quand même comme un aboutissement. Et quel a été le destin du tableau ? Qu'est-ce qui est devenu ?
C'est très intéressant de réaliser qu'en effet, le tableau, très vite, a abouti à son but, a connu le succès que lui désignait l'artiste. Le tableau fut parmi les très rares tableaux qui sortaient de la succession de Vincent Van Gogh avant la mort de son frère, Théo. Le tableau fut offert par l'épouse de Théo à un ami commun, un médecin hollandais, qui venait la voir et qui venait voir son mari déjà malade à l'hôpital à Paris. Et pour le remercier d'avoir fait le trajet, elle lui offre une toile, le semeur. J'imagine que le médecin, un psychiatre par ailleurs, a aussi probablement eu l'occasion de choisir parmi les douzaines et les douzaines de tableaux accrochés sur les murs de l'appartement de Théo, car tous les tableaux que Van Gogh peignait, finissait très vite chez Théo, qu'il gardait chez lui. Et quand il tombait malade, c'était sa femme qui très vite devenait sa veuve, parce qu'en janvier 91, Théo s'est éteint. Et que maintenant, tous cette quantité de tableaux se retrouve. Très vite, Jo Van Gogh décide de rentrer en Hollande et elle transfère toute la succession dont elle dispose maintenant en vue de la garder pour son fils qui vient de naître. Elle transfère cette succession, elle transfère toute cette quantité de tableaux et très vite, elle devient très consciente de l'importance de contrôler sévèrement la distribution. Le succès de Vincent Van Gogh ne tardera pas. Dans les 10 ans après sa disparition, soudainement, les prix des tableaux commencent à monter très vite et il y aura une demande toujours croissante. Et dès le début, Jo Van Gogh opère d'une façon très consciente. Elle sait qu'il faut donc tout d'abord vivre, donc vendre. Elle sait qu'il faut donner au marchand qui l'approche des tableaux réussite, des tableaux d'envergure. Mais elle sait aussi éviter de leur donner des tableaux trop importants. Mmh. Ce qui fait par ailleurs le succès du musée Van Gogh, qui aujourd'hui est l'héritier de cette succession.
Et alors, le tableau, après être chez ce médecin, a eu d'autres, une autre vie ?
En effet, le médecin a divorcé sa femme et après, en la divorçant, il a dû céder le tableau à son épouse, qui déjà en 1913 réalise la valeur de ce tableau et le vend. Le vend à un marchand à La Haye, qui dans les 10 jours après le revend à un collègue à Berlin. Car entre-temps, Berlin est devenue la capitale de l'enthousiasme pour Van Gogh. C'est surtout des collectionneurs allemands qui s'emparent de la plupart des tableaux qui circulent maintenant sur le marché. Et c'est chez Paul Cassirer, donc le fameux galeriste berlinois qui commence à devenir le partenaire des grands marchands parisiens Durand, Ruel, Bernheim, Jeune, au début du siècle, mais qui se lance aussi sur une vente, une grande réussite des œuvres de Van Gogh, en cultivant des relations très étroites avec Jo Van Gogh. Paul Cassirer tient le tableau quelques jours dans ses mains, et dans les 10 jours de nouveau, il le revend un vrai collectionneur, un banquier berlinois du nom de Franz von Mendelssohn. Ça montre très nettement que l'attraction des tableaux de Van Gogh est devenue très grande. On n'a pas à attendre des clients. Une fois qu'on dispose d'un tableau de Van Gogh d'envergure, on le vend aussitôt.
Mais c'est après Mendelssohn qu'il est passé dans la collection Burlé ?
Et puis, en effet, c'est resté chez la famille Mendelssohn une trentaine d'années. C'est-à-dire, Franz von Mendelssohn est décédé en 35. Il a laissé le tableau à son fils, Robert von Mendelssohn. Le tableau fut évacué de Berlin pendant les années de la guerre. La famille Mendelssohn avait une grande propriété au sud de l'Allemagne où tous ces tableaux pouvaient être mis à l'abri. Et ensuite, en 1951, le fils de Franz von Mendelssohn, Robert von Mendelssohn, l'a vendu à Émile Burlet.
Donc là, on est dans les années 50, et c'est un tableau qui est toujours dans votre collection, bien entendu, qui va se retrouver aussi dans la collection que vous déposez au musée de Zurich.
Mais bien sûr, ça fait partie de cette fondation créée par la famille d'Émile Burlet après sa mort. Lui, il est mort en 1956. La fondation fut créée en 1960 et cette fondation rassemble un tiers à peu près de l'ancienne collection d'Émile Burlet. Et parmi les tableaux qui appartiennent à la fondation, le Sommer, bien sûr, appartient au plus important, ensemble avec la branche de marronnier de Van Gogh. Par ailleurs, un autre tableau qui est sorti de la succession avant la mort de Theo Van Gogh, parce qu'il fut donné au docteur Gachet à Auvers-sur-Oise pour le remercier d'avoir soin Van Gogh à la fin de sa vie. Donc, tous les deux tableaux se retrouvent aujourd'hui dans la fondation d'Émile Burlet.
Alors, celui-ci dont vous parlez a eu un destin complexe puisqu'il a été restitué est-ce qu'il fait partie des œuvres qui avaient été considérées comme spoliées?
Non, de ces œuvres de Van Gogh fut parmi ceux restitués. Mais il est vrai que Burlet, pendant la Deuxième Guerre, vivant en Suisse et gagnant son argent en Suisse, a acheté des tableaux qui s'avéraient des tableaux spoliés pendant la guerre par des Allemands ici en France. Et après la guerre, il y a eu des procès de restitution. Et Aimé Burle n'a pas uniquement restitué, mais il a aussi racheté autant d'œuvres qu'il pouvait.
Ça concerne 11 ou 12 tableaux.
En effet, il a dû restituer 13 tableaux dont il a pu racheter 9.
Ah voilà. Voilà.
Mais aucun d'entre ces tableaux était un Van Gogh. Il y en avait d'autres. Il y avait des impressionnistes plus classiques, tels que Degas, Manet, Pissarro, etc.
C'est un chef-d'œuvre absolu que je suis très heureux que vous ayez bien voulu commenter avec nous, parce que cette œuvre crée une émotion que tous les visiteurs de la Fondation vont découvrir, qu'on a pu découvrir à Paris également, parce que vous aviez fait cette présentation très importante à la Fondation Mayol, de l'ensemble, mais d'une grande partie de la collection. Qui a eu beaucoup de succès. Hein.
En effet, nous sommes en effet très contents de l'écho que cette exposition a eu. C'était la toute première exposition de cette collection à Paris. Ce qui peut être paraître étonnant, parce que c'est quand même une collection qui repose avant tout sur l'art français du 19e siècle, l'impressionnisme et le post-impressionnisme français. D'autant plus, nous sommes heureux d'avoir pu montrer nos tableaux au public parisien. Nous aurons l'occasion de montrer une autre sélection l'année prochaine à Lugano, au musée de la Suisse italienne, avant finalement d'entrer à l'extension du musée des Beaux-Arts de Zurich.
En attendant, nos auditeurs peuvent aller voir ce chef-d'œuvre à Arles. Merci infiniment, Lucas Glor, d'avoir eu la gentillesse de venir nous parler exclusivement de ce tableau qui nous passionne. Et c'est un chef-d'œuvre. Je vous invite tous à y aller. Merci.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu le directeur de la collection Bourlet, Lucas Glor. Merci Lucas d'être venu avec nous. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes La belle voix de Gabriel Dufay, une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son Pierre Monteil, réalisation Franck Lilin. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay pour le rayon de BD et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.